Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bourumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Liberté de l'expression, Macron demande aux médias français de censurer les nouvelles sur la réforme des retraites. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les liens Iran-Syrie sont stratégiques et basés sur l'esprit de résistance des peuples des deux pays, déclaration du président Raïsi. L'accord nucléaire de 2015, il n'y a pas de déviation dans le nucléaire iranien. Et puis, 3 enfants tués lors d'un nouveau raid saoudien au Yémen. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. En visite en Iran, le ministre syrien de la Défense, à la tête d'une délégation, discute du renforcement de la coopération bilatérale avec les hautes autorités iraniennes. Durant sa rencontre avec le président iranien Ibrahim Raïsi, Mahmoud Abbas a déclaré que les liens entre Téhéran et Damas sont profondément enracinés et solides. Étant stratégique, les relations irano-syriennes sont fondées sur des croyances communes ainsi que sur l'esprit de la résistance des peuples des deux pays, a fait valoir le président iranien. Ibrahim Raïsi a souligné l'importance des relations stratégiques entre les deux pays et rappelé que la République islamique était aux côtés de la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme et soutiendrait le pays dans son processus de reconstruction. Le nouveau ministre syrien de la Défense, le major général Ali Mahmoud Abbas, a également rencontré le général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le général Salami a exprimé à cette occasion la volonté de l'Iran de renforcer la coopération dans les domaines militaires et éducatifs avec la Syrie. Au cours de la réunion, Abbas a salué l'Iran pour son soutien à la Syrie dans sa lutte contre les terroristes de Daesh. Les deux parties ont également discuté de la tenue d'exercices militaires conjoints. Les préparatifs et les coordinations pour une éminente visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, Rafael Grossi, en Iran, et à l'ordre du jour, a déclaré le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique avant de souligner qu'il n'y a pas de déviation dans le programme nucléaire de l'Iran. Les Occidentaux eux-mêmes savent que les accusations qu'ils portent contre l'Iran sont des mensonges, a déclaré Mohammad Islami en rejetant les tapages médiatiques et les diffamations anti-iraniennes dans le domaine nucléaire. Ils ont utilisé ces mensonges comme levier de pression contre la République islamique d'Iran et vous avez vu dans les documents officiels qu'il n'y a aucun signe de déviation dans le programme nucléaire pacifique de l'Iran, insistait le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Le vice-président iranien a souligné que les interactions avec l'agence viennoise se poursuivent et le chef de la IOA sera bientôt en visite à Téhéran. Le ministre iranien des renseignements a signalé l'arrestation de 12 cellules terroristes affiliées à l'agence d'espionnage israélienne Mossad dans le pays. Ismail Khatib a déclaré que les terroristes prévoyaient de mener des opérations pour venger l'échec de leur complot séditionniste lors des récentes émeutes en Iran. Il a ajouté que les appareils de renseignement sont à la hauteur de désamorcer toutes ces conspirations futiles et identifier et surprendre les terroristes en peu de temps. Khatib a noté que les ennemis de l'Iran cherchaient à renverser l'ordre de la République islamique dans une énième vaine tentative de changement de régime orchestrée depuis la victoire de la Révolution en 1979. Il a déclaré que le ministère du renseignement reste à tout moment disposé à neutraliser les complots et les menaces de l'ennemi. L'Iran se classe deuxième et troisième au monde en réserve de gaz et de pétrole. Dans son dernier rapport, le ministère américain de l'énergie a annoncé l'Iran comme le deuxième pays ayant les plus grandes réserves de gaz et le troisième pays ayant les plus grandes réserves de pétrole au monde. Selon l'IRNA, dans son dernier rapport sur les statistiques des réserves mondiales de pétrole et de gaz, le ministère américain de l'énergie a estimé les réserves totales de pétrole de l'Iran à 209 milliards de barils à la fin de 2021, soit plus que tous les pays du monde à l'exception du Venezuela et de l'Arabie saoudite. Selon ce rapport, l'Iran a été le troisième pays ayant les plus grandes réserves de pétrole au monde en 2021. Le Venezuela se classe au premier rang mondial avec des réserves de 304 milliards de barils et l'Arabie saoudite au deuxième rang avec 262 milliards de barils. Le Canada se classe au quatrième rang mondial avec des réserves de 168 milliards de barils après l'Iran et l'Irak avec 107 milliards de barils, les Émirats arabes unis avec 107 milliards de barils, le Koweït avec 102 milliards de barils, la Russie avec 80 milliards de barils, les États-Unis avec 61 milliards de barils et la Libye avec 48 milliards de barils sont connus comme les 5e à 10e pays ayant les plus grandes réserves de pétrole dans le monde. L'actualité, c'est également le Liban. Un juge libanais chargé d'enquêter sur l'explosion meurtrière survenue en 2020 dans le port de Beyrouth a engagé une procédure d'inculpation à l'encontre de plusieurs hauts fonctionnaires actuels et anciens pour meurtre et autres crimes dont ils seraient responsables. Selon un responsable judiciaire, le procureur général Hassan Kaidat, l'ancien premier ministre Hassan Diab et l'ancien commandant de l'armée Jean Kawaji font partie des personnes inculpées. À la surprise générale, le juge Tarek Bitar a rouvert de manière inattendue l'affaire de l'explosion lundi après une suspension de 13 mois. Bitar prévoit d'interroger 13 suspects le mois prochain. Pendant ce temps, le bureau du procureur a rejeté les nouvelles accusations affirmant que Bitar n'était pas autorisé à retourner au travail. L'explosion du 2020 a détruit la majeure partie du port de Beyrouth et de ses environs, tuant plus de 200 personnes et en blessant des milliers d'autres. On pense que la catastrophe a été causée par un incendie dans un entrepôt où un vaste stock de produits chimiques industriels avait été stocké. Jusqu'à présent, aucun haut fonctionnaire n'a été tenu pour responsable. L'enquête sur l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth a été arrêtée dans une situation où l'enquêteur judiciaire sur l'incident tragique fait face à diverses accusations. Dans l'un de ses discours l'année dernière, Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, a accusé le juge Al-Bitar d'être partial et de faire de la politique politisée dans ses relations avec les responsables de la sécurité et les politiciens liés à l'affaire. Les organisations libanaises de défense des droits de l'homme souhaitent que les Nations unies envoient une commission d'enquête indépendante au Liban en raison des obstacles auxquels sont confrontées les enquêtes locales. Direction le Yémen, l'Arabie saoudite a tué 3 autres enfants dans sa nouvelle frappe aérienne sur le Yémen, ravagée par la guerre. Selon les médias, une personne a également été blessée après que des drones saoudiens ont frappé un district de la province de Hudaïda. Le Yémen a été dévasté par une guerre menée par l'Arabie saoudite avec certains de ses alliés régionaux en 2015 pour y rétablir un régime fantoche. Les assauts et le blocus dirigés par les Saoudiens contre le Yémen ont fait des centaines de milliers de morts. Les Nations Unies ont déjà décrit la situation comme la pire crise humanitaire au monde. Enfin, Israël a démoli la maison d'un Palestinien qui a été tué par les forces du régime il y a 2 mois. Selon les médias, les forces israéliennes ont fait une descente mercredi matin dans le camp de réfugiés de Shofat en Cisjordanie afin de détruire la maison d'Udaï Tamimi qui a été abattue en octobre. Tamimi était recherché pour le meurtre d'un soldat israélien lors d'une attaque de représailles. Le régime israélien démolit régulièrement des maisons palestiniennes sous différents prétextes, y compris des attaques contre les forces et les colons israéliens. Dans un autre incident en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont tué un Palestinien. Cela porte à 19 le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le début de l'année. Selon Israël Hayom, le cabinet du premier ministre israélien, l'extrémiste Benjamin Netanyahou, a commencé à discuter de mesures pour accélérer et augmenter la construction de colonies en Cisjordanie occupée, en mépris du droit international. Netanyahou, le ministre de la guerre, Yoav Gallant et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, se sont rencontrés plus tôt cette semaine pour finaliser le processus. Toutes les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international en raison de leur construction sur un territoire occupé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les activités de colonisation du régime par plusieurs résolutions. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Liberté d'expression, Macron demande aux médias français de censurer les nouvelles sur la réforme des retraites. Dans un déjeuner offert aux représentants des grands médias français, Emmanuel Macron, le président français, exige que les médias français censurent les nouvelles sur les protestations contre les réformes des retraites. Alors que les manifestations se multiplient en France, l'Élysée se voit contraint d'oublier ses slogans sur la liberté d'expression et impose les restrictions contre les médias. Le 17 janvier, 10 grands éditorialistes influents des grands médias comme Les Échos, RTL, Le Figaro, Le Monde, BFM TV, France Inter et France TV étaient invités pour un déjeuner avec le président Macron. Lors de ce banquet présidentiel, le locataire de l'Élysée exige que les grands médias français prennent une tonalité plus légère face aux critiques adressées à la Macronie, même en osant de proposer les expressions et les éléments de langage à utiliser par les journalistes. Cette réunion se réalise discrètement juste 2 jours avant la grande marche du 19 janvier, où 2 millions de Français se sont descendus dans les rues en vue de condamner les décisions de l'Élysée. Le régime macronien était déjà conscient de la gravité de la réaction du peuple contre les mesures répressives. Ces grands journalistes de la presse parisienne étaient convoqués à peine 24 heures avant cette rencontre organisée par la communication de l'Élysée. Cette réunion secrète a été dévoilée par Ève Roger sur le plateau de la chaîne France 5 et dans l'émission C'est médiatique, après avoir été couverte par le briefing Paris Playback du site américain de Politico. Dans ce geste, visiblement contre la liberté de l'expression, le président Macron a demandé aux médias français de manipuler la diffusion des infos concernant les protestations et des manifestations contre le projet de la réforme des retraites imposée par le régime français. Cette initiative dictatoriale de l'administration Macron est contre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui garantit la liberté des médias en France.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors la France est devenue le théâtre de la grève contre la réforme des retraites et la rue s'efforce de faire céder le gouvernement face aux cris des manifestants. Alors le cortège emmené par les jeunes et bien sûr, par brassant toutes les générations, ces jeunes qui crient leur colère contre le gouvernement, craignent une forte diminution d'emplois et ils seront une génération sacrifiée, bien sûr. Alors nous parlerons également dans cette émission, Le Débat, de la réaction des chefs des partis politiques en France et certains pensent même que cette loi ne fera pas travailler une seule personne et fera plus de chômeurs. Nous allons donc parler de cela avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie. Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des experts des questions internationales. Commençons par Aïssar Midani, experte franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe Presse TV et merci pour votre invitation.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Maître André Chamy, juriste international qui est avec nous depuis l'Alsace. Monsieur Chamy, bonjour.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à Madame Bigani.
Voilà un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à Madame Midani. Alors, les Français sont en colère contre cette loi de réforme des retraites. Pourquoi, à votre avis ?
En fait, cette réforme des retraites, ça fait un certain temps que les présidents, d'ailleurs aussi bien Hollande, Sarkozy et Macron actuellement, ils la mettent sur le tapis, prétextant du fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui cotisent à la retraite, donc pour avoir une retraite pour tout le monde, pour tous ceux qui il faut travailler plus. Et puis, pour gagner plus, c'était le mot d'ordre de Sarkozy déjà. Alors qu'en fait, les gens ont vu par expérience que ça voulait dire travailler plus, gagner moins et avoir encore moins de sécurité. De sécurité, c'est-à-dire au niveau de la retraite, même ceux qui ont la retraite, elle est diminuée et elle est à chaque fois pas suffisante pour vivre. Donc la colère aujourd'hui, elle est tout à fait légitime puisqu'il y a non seulement augmentation de l'âge de la retraite, mais aussi des annuités, c'est-à-dire le nombre de trimestres auxquels il faut cotiser pour arriver à la retraite. Là-dessus, on ne fait absolument pas état, je veux dire, des licenciements dus à la fermeture d'usines liées au Covid déjà, et puis maintenant liées à l'augmentation du prix de l'énergie, qui est pour les usines et pour l'industrie. Donc, en fait, ça pousse pratiquement les industries au à licencier du monde et à diminuer le nombre de travailleurs. Ce qui veut dire, en fait, que non seulement il y a 2 années de plus à la retraite, mais c'est que ceux qui vont arriver à la retraite sont très peu nombreux, puisqu'il y a actuellement, avec aussi la guerre contre la Russie et pour soutenir l'Ukraine, il y a de plus en plus d'argent qui est dépensé, il y a de plus en plus de d'augmentation du prix de l'énergie. Et je voudrais quand même rappeler que hier, il y a 3 centrales électriques qui ont cessé de produire, nucléaires pour la production d'électricité en France, qui ont cessé de produire. Et puis, donc, tout ça fait un ras-le-bol général que Macron n'a pas entendu et ne veut pas entendre. D'ailleurs, c'était tout à fait révoltant qu'il ne soit pas en France à ces moments importants, qu'il était en Espagne, justement, pour signer un certain nombre d'accords autour de cette même question, que l'augmentation il prétend depuis des années qu'il n'y a pas d'argent, mais en fait il a bien trouvé l'argent pour la répression du mouvement des Gilets jaunes pour en achetant des armes nouvelles en fait pour les manifestations, mais aussi là il trouve bien l'argent pour soutenir les nazis d'Ukraine hein, dans leur guerre contre la Russie, mais aussi, sans parler des 400 milliards d'euros qu'il a décrété, en fait, a ajouté au budget, 400 millions d'euros à ajouter au budget de la défense sur les 7 ans à venir pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Donc tout ceci, c'est les gens le voient, les différentes couches de la population le voient, et puis donc ça les révolte, et c'est une révolte tout à fait légitime, je dirais.
Bien. Maître André Chamy, alors Madame Midani nous a cité un certain nombre de raisons, de ras-le-bol des Français. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette loi sur la réforme des retraites ne peut être qu'un prétexte pour les Français pour exprimer leur colère à l'égard d'autres choses contre donc, le gouvernement ?
Il est incontestable que nous sommes face à un problème démocratique tant dans la question posée par la loi, puisque au départ, on dit, en tout cas le prétexte du gouvernement, que Macron a été élu sur son programme, et dans son programme, il était prévu la réforme des retraites. Or, ils oublient tous qu'il n'a pas été élu sur son programme, il a été élu par opposition à l'élection de Marine Le Pen. Et si l'on devait prendre uniquement la quotité, si je veux dire, dont a bénéficié Macron, ça représenterait même pas 15% du corps électoral. Puisqu'il a recueilli en gros une 20aine de pourcents, mais ça ne correspondait pas au corps électoral, ça correspondait aux votants. Et quand on répertorie ça par rapport au nombre d'électeurs, évidemment, ça ne représente même pas 15%. Or, s'attribuer une légitimité alors qu'on n'a pas une majorité réelle, c'est d'abord de la fausse démocratie. La deuxième difficulté, c'est que même au deuxième tour, il n'a pas été choisi lui, il a été choisi en parti pris. C'est-à-dire, il y a des partis de gauche, même ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire Mélenchon, les insoumis, les écolos, etc., qui sont opposés à tout son projet politique, à toute sa politique, ils ont dû voter pour lui, non pas par adhésion, mais tout simplement par opposition. Ce qui démontre que les choses ne sont pas aussi claires que cela, y compris dans le camp de la majorité présidentielle, laquelle reste toujours relative, raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le passage en force grâce au 49.3, c'est-à-dire un article qui permet de passer les textes en force au mépris de la majorité non acquise au sein du Parlement. Troisième problème, à mon sens, qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a un malaise qui dure depuis des années, même depuis le premier mandat Macron,
Et c'est ce qui explique à l'époque le mouvement des Gilets jaunes, mais qui continue de fomenter, qui continue d'exister au sein de la population, mais laquelle a été réduite en primé au silence en raison de la situation économique et avant c'était en raison de la situation sanitaire. Puisque quand vous êtes confiné, vous ne pouvez pas manifester, puis ensuite il y a la situation économique qui est délicate et à ce moment-là vous préférez ou privilégiez de continuer de bosser au lieu de reprendre le mouvement social. Maintenant, le révélateur de ce malaise social, c'est effectivement la loi sur la retraite. La loi sur la retraite est tellement, je dirais, injuste qu'elle vise directement les personnes qui vont dépasser l'âge de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un taux de non-employabilité en France pour les personnes ayant plus de 60 ans. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va inciter à l'emploi des seniors. Or, l'emploi des seniors pose des difficultés parce que les employeurs n'embauchent pas les seniors. C'est-à-dire, vous allez les priver, en quelque sorte, de leur cotisation entre l'âge de 60 ans et 64 ans, ce qui aboutira directement à la base de leur retraite. Et c'est ça que se trouve le problème. Les gens ne sont pas opposés à l'idée de travailler, mais ils savent qu'ils ne pourront pas travailler au-delà de certain âge, ou en tout cas, ils n'auront pas la santé de travailler au-delà de certain âge, et c'est la raison pour laquelle ils seront privés de ces cotisations sur la partie qui est considérée la partie la plus onéreuse, c'est-à-dire qui rapporterait plus de cotisations, mais à partir du moment où vous êtes privé de 4 ans ou de 5 ans de cotisation, bah vous aurez nécessairement une retraite moindre, et c'est ce qui vous mettrait dans une situation précaire à l'âge où vous devriez bénéficier de votre retraite. Et nous sommes donc dans cette situation-là qui prévoit déjà la précarité, ou en tout cas qui l'envisage et qui l'intègre dans le calcul. Or, il y a d'autres sources de revenus qui pourraient permettre d'alimenter les caisses de retraite. D'ailleurs, la France s'est privée de cette source en privatisant, par exemple, les autoroutes. Or, les autoroutes, à l'origine, devaient financer les caisses de retraite. Et aujourd'hui, ces caisses ne contribuent plus aux caisses de retraite. Et par conséquent, évidemment, il va y avoir un vide. Or, les Français sont révoltés, ils le font savoir, et aujourd'hui la tension est très forte, et ça pourrait même aboutir, rien ne l'interdit si j'ose dire, ça pourrait même aboutir à une révolte généralisée, puisque on a constaté une participation très importante, au-delà même des prévisions des syndicats et des partis politiques, parce que les syndicats prévoyaient 1 million, le chiffre a dépassé les 1 200 000, y compris selon les chiffres de la police. Alors que selon les syndicats, nous avons atteint pratiquement les 2 millions de manifestants. C'est-à-dire, c'est quelque chose de colossal que la France n'a pas connu depuis très, très, très longtemps.
Absolument. Alors, par vos explications, on a très bien compris, vous et celle de Mme Midani, les raisons pour lesquelles les Français sont en colère. Je m'adresse à vous, Mme Midani, maintenant. Alors, la rue essaye de faire céder donc, le gouvernement. Est-ce que, comme a dit Maître Chami, est-ce que ça va se développer et donc, dans les jours à venir et peut-être les semaines à venir, on aura une mobilisation générale, à votre avis?
En fait, il y a eu déjà une mobilisation des étudiants où 150 000 manifestants ont rejoint aussi les cortèges. Donc, ça touche toutes les tranches de la société, ça d'une part. D'autre part, il y a eu une reconduction de cette grève un autre jour qui a été décidée. Donc, c'est le 31 janvier. Donc c'est un mouvement qui est fait pour durer et qui n'est pas fait pour faire juste un coup d'éclat un seul jour, ça d'une part, mais d'autre part je crois que la majorité des gens veulent non seulement manifester mais ils veulent aussi des résultats et jusqu'à présent Macron montre une attitude qui est complètement pas seulement réticente, mais complètement rigide vis-à-vis de cette réforme. C'est-à-dire, il veut pas entendre. Il a une position complètement autiste vis-à-vis du mouvement et vis-à-vis de tout le peuple, ce qui ne lui vaut pas. Enfin, ça ne va pas pour améliorer ses cartes auprès de la population, d'une part. Et puis d'autre part, la situation se durcit et donc elle peut aller vers une confrontation plus violente.
Madame Idani, est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Chami quand il a parlé que Emmanuel Macron ne représentait pas tous les Français, surtout la majorité des Français, à cause donc du second tour avec Marine Le Pen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait. Tout
d'où
à
la
fait.
Colère
il
des Français.
A été vraiment, oui. Absolument. Et ça a été une véritable manigance, en fait, pour sa réélection. C'est un jeu de théâtre presque qui a été où ils ont mis des personnes encore plus à droite et à droite, comme Zemmour, comme Le Pen, etc. Et puis la soi-disant gauche a appelé à voter Macron, ce qui est complètement hallucinant. Et puis ça d'une part. Et puis d'autre part, il faut quand même savoir que Macron n'a jamais défendu un programme. Et il a toujours dit je suis là pour mettre en application le programme que je défends, mais il n'a jamais explicité son programme. Rien du tout. Alors là, il dit que ça, il en a parlé et qu'il a été élu sur cette base-là. C'est archi faux. C'est complètement faux. Et tout ça, ce sont des choses, des manigances médiatiques pour noyer le poisson et faire croire des choses qui n'ont pas été et qui sont complètement fausses. Donc aujourd'hui, effectivement, en France, la polarisation ou la bipolarisation est assez importante et violente. Il faut savoir jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel est le taux des partisans de cette réforme, parce que il dit qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec cette réforme, etc. Et il n'y a absolument aucune possibilité de comptage ou de connaissance de qui est pour. On voit déjà qu'il y a des millions de personnes qui sont contre et que ça, ce sont ceux qui ont pu manifester. Mais il y a énormément de gens qui ne sont pas allés en manifestation et qui n'ont pas laissé leur poste de travail aussi et qui sont complètement pour les revendications, c'est-à-dire contre cette réforme. Il y a
absolument.
Même des hauts fonctionnaires qui sont complètement contre cette réforme. Donc c'est très important à voir.
Tout à fait. Maître Chami, est-ce qu'on peut parler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, d'une mobilisation générale ou cette mobilisation est pour le futur?
Le risque existe. D'ailleurs, les renseignements généraux en France, enfin ce qu'on appelait dans le temps les renseignements généraux, mais en tout cas les renseignements des services de police, prédisent une mobilisation qui pourrait s'accentuer et qui pourrait même faire trébucher, si j'ose dire, Macron et son gouvernement et aboutir même à quelque chose de beaucoup plus important. Pour l'instant, c'est, si j'ose dire, c'est dans les tuyaux, comme on le dit dans notre jargon, mais rien ne l'exclut. Et aujourd'hui, il y a une véritable crainte, parce que ce sont des rapports qui remontent des services des préfectures de tous les départements et qui démontrent qu'il y a une colère qui gronde et cette colère risquerait de se transformer en mouvement populaire généralisé avec des conséquences particulièrement importantes sur la sécurité. En tout cas, ce n'est pas, je ne suis pas en train d'exprimer un souhait personnel, mais je dis les infos qui circulent et qui sont remontées au ministère de l'Intérieur et qui sont remontées directement à l'Élysée. Maintenant, il faut voir la réaction du gouvernement. Est-ce que, comme d'habitude, ils vont jouer l'épuisement du mouvement, en tout cas croire qu'au bout de quelques semaines, ça va se calmer, et à partir de là, ils feront passer leur projet de loi, en s'appuyant sur la droite, ou bien il y aura une reculade, et puis on verra à ce moment-là par quoi ils vont remplacer ce texte.
Maître Chami,
je pense, moi, personnellement, oui.
Maître Chami, force est de constater tout de même que le gouvernement ne fait rien pour répondre aux exigences des manifestants. C'est pour ça que les manifestations s'accentuent, n'est-ce pas?
De toute façon, c'est une constante dans l'action de ce gouvernement. Moi, j'ai contribué activement, si je veux dire, au mouvement des soignants qui ont été martyrisés par le gouvernement, qui ont été exclus du service, alors que les hôpitaux et les cliniques et tous les services de santé en avaient besoin, et ils se sont trouvés à la rue de manière assez abjecte. Et à l'époque, et ça continue d'ailleurs, le gouvernement joue l'épuisement, c'est-à-dire ils disent « ça durera ce que ça durera, ils finiront par lâcher la rue ». Est-ce que c'est un pari raisonnable du gouvernement par rapport à ce mouvement en particulier, en tout cas le mouvement de, concernant la loi sur la retraite, mais encore une fois, s'il n'est qu'une face du mouvement général, que la cherté de la vie, la situation économique, la précarité qui se généralise, c'est tout cela qui vient s'additionner à la question de la retraite. C'est-à-dire, quand on voit les slogans dans les manifestations, il n'y a pas que la question de la retraite, il y a d'autres questions, et bien entendu, avec les dépenses fastueuses du gouvernement et du président, évidemment, quand on voit les vacances, les départs, les repas, etc., tout cela questionne la classe populaire. Ils disent pourquoi c'est toujours nous qui devons payer, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent payer, en l'occurrence, les plus riches, les plus...
Oui. Malheureusement, notre liaison est coupée. Madame Midani, est-ce que vous voulez bien réagir? J'ai vu tout à l'heure, comme Maître Chami parlait, vous confirmiez ce qu'il disait.
Ah, tout à fait, absolument. Et donc, non seulement Macron a été réélu avec une toute petite minorité, je dirais, par rapport à la population, mais aussi le fait que la seule réponse qu'il a à faire, c'est d'abord causer toujours « ça ne m'intéresse pas », d'une part, et puis d'autre part, par la répression et par des pertes d'emplois. Je voudrais dire quand même que c'est quelque chose d'important, et là je rectifie ce que j'avais dit par rapport au budget qui voulait augmenter aussi pour aider l'Ukraine face à la Russie, c'est bien 400 milliards sur les 7 ans à venir. Donc en fait, quand ils veulent bien, et sous le diktat américain quand même, ils continuent ils cherchent à trouver et ils trouvent l'argent. Mais quand il s'agit de servir la population et puis de garder effectivement certains avantages acquis par des luttes importantes à travers l'histoire et pour l'avantage des travailleurs et des gens qui ont construit la France, et ben là, il ne trouve pas un mot à dire à part « ça continuera comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement » et par la répression. Voilà. Donc c'est sûr que ça va lui jouer des tours importants. Moi, je suis un peu dubitative que la question de l'Ukraine aussi n'ait pas été évoquée par le mouvement, parce qu'on ne fait pas le lien entre la dégradation de la situation de vie en France et toute cette aide, entre guillemets, sous l'impératif américain, à l'Ukraine qui n'a rien de juste dans sa guerre.
Absolument.
Et qui est une guerre d'agression contre la Russie, ajoutée au fait que les diktats américains qui exigent en fait de couper les relations économiques avec la Russie, avec l'Iran, etc. C'est en fait un suicide, représente un suicide économique de la France et de l'ensemble des pays européens. Et personne ne fait ce lien. Mais je pense que là, de plus en plus, on voit dans toutes les capitales européennes, à Berlin, en Angleterre et partout, où il y a dans le mouvement, justement, de protestation, un lien total entre le fait de la guerre et le fait de la dégradation des conditions de vie de la population. Or là, il est important et ça va venir, enfin ça vient, en France il y en a qui le disent, mais ça n'a pas été repris par le mouvement syndical qui, à mon avis, est aussi un petit peu, réticent à poser cette question et qui est de connivence, je dirais, avec l'État sur cette question. Il y a le fait, c'est quand même flagrant quand on n'a pas d'argent et on dit on n'a pas d'argent pour la retraite et
tout
puis on va augmenter le budget de défense de 400 milliards alors que le budget actuel est de 40 milliards, et on va l'augmenter de 400 milliards sur les 7 années à venir. Pour le soutien de l'Ukraine.
Absolument, alors, peu de promesses.
Ça paraît complètement choquant. Et ce qui est encore plus choquant, que les leaders du mouvement ne font pas le lien entre les deux.
Aïssa Armidani, experte franco-syrienne, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître André Chamy qui nous a accompagnés depuis l'Alsace. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici, le Moyen-Orient.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous avec un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné les actions de l'Union européenne et du gouvernement britannique qui ont imposé des sanctions contre un certain nombre d'entités et de responsables iraniens. Le lundi 23 janvier, l'Union européenne a publié sa liste de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le gouvernement britannique a également imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran pour de prétendus problèmes de droits de l'homme. Le ministère britannique des Affaires étrangères a publié un communiqué annonçant des nouvelles sanctions contre un total de 7 individus iraniens. La République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre sa revanche et riposter à ses politiques ratées et annoncera bientôt la liste des nouvelles sanctions contre ceux qui violent les droits de l'homme et ceux qui propagent le terrorisme dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, a déclaré mardi 24 janvier le porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a poursuivi en disant que les sanctions imposées par l'Union européenne et le Royaume-Uni à plusieurs députés et responsables judiciaires, militaires et culturels iraniens montrent leur désespoir et leur colère face à leur récent échec scandaleux à créer l'insécurité en Iran, malgré des coûts considérables qu'ils ont dépensés. Bien sûr, ils savent bien que les sanctions n'affecteront pas la détermination de la nation iranienne à faire face à l'ingérence étrangère au complot, a dit M. Kanani. Le gouvernement britannique a imposé lundi de nouvelles sanctions contre des responsables iraniens, dont le gel des avoirs et l'interdiction de séjour sur le sol britannique. Les ministres européens des Affaires étrangères ont ajouté 37 noms à la liste des individus et entités iraniens soumis à des sanctions. La République islamique d'Iran avait précédemment imposé des sanctions contre des personnes et des institutions européennes et britanniques en réponse à leurs actions contre l'Iran. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Barghari, a salué la Syrie pour avoir soutenu la Palestine contre Israël depuis que le régime a illégalement occupé et annexé les territoires arabes en 1967, appelant à renforcer la coopération en matière de défense et à planifier des exercices militaires conjoints avec ce pays. Il est du devoir de tout musulman et de tout arabe de se tenir aux côtés de la Syrie à cet égard. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez fait preuve d'une résistance considérable, a déclaré le général Barghari lors d'une réunion avec le ministérien de la Défense. Ali Mahmoud Abbas, en visite à Téhéran, ce lundi 23 janvier. Le régime sioniste a perpétré toutes sortes de crimes au cours des dernières décennies en occupant les territoires palestiniens et il doit en répondre devant les peuples du monde, a déclaré le général Barghari avant de poursuivre. Ceci, alors que certains pays arabes se sont tournés vers la normalisation des relations avec Israël et ont trahi la cause palestinienne. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a déclaré que le gouvernement et la nation syrienne ont déjoué le complot ourdi il y a plus de 10 ans, ajoutant qu'ils ont défendu leur pays grâce à une forte volonté. Il a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran d'aider les forces militaires syriennes dans la restructuration, la formation militaire et la fourniture d'équipements nécessaires, soulignant la nécessité d'organiser un exercice militaire conjoint irano-syrien. De son côté, le ministère de la Défense a souligné l'étroite interaction entre Damas et Téhéran dans la lutte contre le terrorisme et l'ennemi commun israélien. Abbas a également félicité la République islamique d'Iran pour avoir soutenu la Syrie, affirmant que Damas continuera à lutter contre le régime d'occupation de Tel Aviv et à soutenir les nations indépendantes. Le mouvement du djihad islamique de la Palestine a condamné la profanation à répétition de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et d'autres lieux saints dans les territoires occupés de la Palestine par Israël, mettant en garde contre une grave confrontation. Le porte-parole du djihad islamique, Tahrir Salmi, a dénoncé l'incursion lundi 23 janvier de centaines de colons israéliens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans les Al-Rost occupés, la qualifiant d'attaque contre les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. L'assaut contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et la pratique de rituels provocateurs dans la cour de ce lieu saint révèlent la détermination obstinée du gouvernement d'extrême droite du régime occupant israélien à mettre en œuvre ses plans diaboliques. De telles mesures sont considérées comme une déclaration de guerre à Al-Rots et à l'ensemble de la nation palestinienne, a dénoncé Tahrir Salmi, et de poursuivre. Si toutes les parties concernées ne remplissent pas leurs responsabilités pour arrêter les crimes du régime israélien et de son armée, nous entrerons dans une confrontation à part entière avec Israël. Nous ne reconnaîtrons alors aucune réserve pour défendre Al-Rots et la mosquée Al-Aqsa. Salmi a affirmé que les Palestiniens sont tout à fait capables de défendre leur terre et son caractère sacré, comme ils l'ont prouvé lors de l'opération L'épée de Rots qui a duré 11 jours en mai 2021. Les combattants de la résistance déployés à Gaza ont lancé l'opération L'épée de Roth contre les atrocités et la profanation de la mosquée Al-Aqsa par Israël. La ministre d'extrême droite des missions nationales en charge de la colonisation du régime sioniste soutient l'implantation des colonies dans les territoires occupés et la démolition accélérée des maisons palestiniennes. Issue du parti sioniste religieux, Orit Struck a appelé à la démolition de centaines de maisons palestiniennes. Elle a affirmé que ces maisons ainsi que des dizaines de quartiers dont l'autorité palestinienne revendique la propriété, sont en fait situées sur des terres appartenant au peuple juif. Elle fait référence à la zone C de la Cisjordanie occupée, qui est classée comme propriété du régime d'apartheid israélien. Elle prétend également que les Palestiniens mènent des constructions illégales sans permis, appelant ainsi le ministre israélien de la Sécurité, Yoav Gallant, à ordonner la destruction de ces maisons. Bien qu'elle admette que les avant-portes de colonies comme Orchaïm sont illégaux, Orit Struck a déclaré que le cabinet actuel du régime sioniste, sur la base d'un accord du cabinet de coalition, essaiera de reconnaître rapidement des dizaines d'avant-postes et d'approuver les opérations de construction de colonies. Israël démolit régulièrement des maisons palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Rotsest, alléguant que ces constructions ont été faites sans permis d'Israël. Il ordonne aussi aux propriétaires palestiniens de démolir leur propre maison ou de payer les frais de démolition s'ils ne le font pas. Le parti Al-Wefar, principal groupe d'opposition à Bahreïn, a fait état de sa préoccupation majeure pour les conditions insalubres dans les centres de détention du petit royaume riverain du golfe Persique, affirmant que les prisonniers politiques souffraient de taux élevés de problèmes de santé chroniques. Dans un communiqué publié samedi 21 janvier, Al-Wefar a annoncé que les militants emprisonnés sont exposés aux différents problèmes de santé physique et mentaux, les qualifiant d'actes criminels et potentiellement mortels. Des demandes de dizaines de prisonniers politiques prouvent qu'ils sont détenus dans des conditions insupportables, a souligné le communiqué. Le groupe d'opposition Bahreïni a ensuite critiqué l'indifférence de la communauté internationale à l'égard des conditions déplorables des prisonniers politiques et a déploré le faux déployé des gouvernements occidentaux en faveur des droits de l'homme. Priver les détenus d'eau potable, de soins médicaux, de médicaments, de chauffage, de lumière, du soleil et de contact avec les familles représente une atteinte systématique à la vie des prisonniers politiques, a souligné le communiqué ajoutant que ces prisonniers sont restés derrière les barreaux pour avoir défendu les droits de l'homme et s'être battus pour des droits politiques et des libertés. Les prisonniers politiques à Bahreïn ont été arrêtés, torturés et condamnés à de longues peines de prison, déchus de leur citoyenneté et isolés politiquement et socialement, car ils réclamaient la démocratie, la justice, la liberté et le respect des droits de l'homme, selon le communiqué d'Al-Wefaq. Le groupe d'opposition bahreïni a finalement fustigé la répression brutale du régime d'Al-Khalifa, déclarant que la poursuite du statu quo rendrait impossible la réconciliation nationale. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.